découverte des lieux où se faisait la musique au temps pas si lointain du baroque. Salles de concert, opéra, concerts privés, cafés, on ne va se priver de rien. On commence, on met le cap vers le nord-est pour se retrouver à Leipzig, la ville de Jean-Sébastien Bach. On peut s'imaginer Jean-Sébastien se promenant dans sa ville, prenant conscience de toutes les charges qui pèsent sur ses épaules. Il est cantor. Le cantor se situe aux côtés à la fois du pasteur et du directeur de l'école. Il assure la direction du chœur, ordonne les exécutions musicales à l'église jusqu'à composer la musique nécessaire, prescrit leurs tâches à l'organiste et au préfet qui le seconde dans la direction des chœurs. Il doit par surcroît enseigner le latin à l'école, parfois même le catéchisme, quand ce n'est pas le calcul ou l'écriture. Surveiller les heures d'études et par roulement la discipline de l'internat. À côté de ses fonctions permanentes, récurrentes, semaine après semaine, le cantor doit faire face aux accidentia, le casuel, source de revenus supplémentaires, indispensable en plus du traitement mensuel pour lui maintenir des conditions matérielles de subsistance à peine décentes. À ce titre, il doit préparer et organiser les auditions diverses que peuvent avoir assurées ses élèves, aubades, sérénades, processions, ainsi que les mariages et enterrements. Aux cérémonies de plus grande importance, il ne délègue pas sa charge à un préfet. C'est personnellement qu'il y participe. Pour les funérailles, il sera alors à la maison mortuaire à la tête d'un groupe d'élèves à qui il fait exécuter un motet pendant le lever du corps, puis se dirige en procession vers le cimetière où l'on chantera un choral. À ses difficultés croissantes avec ses écoliers chanteurs et les musiciens instrumentistes en renfort qu'il doit embaucher là où il peut en trouver, dans les cabarets comme à l'université, à ces difficultés d'ordre professionnel, donc, s'ajoutent les innombrables conflits d'autorité, de prérogatives, de personnes avec les pouvoirs civils et religieux. Conflits avec le directeur des musiques, responsable général de la musique de la ville, quand le cantor ne cumule pas les deux fonctions, avec l'organiste, avec éventuellement le monde universitaire. Les 14 articles de la lettre d'engagement comme cantor de Saint-Thomas que Bach signe en 1723 sont révélateurs de l'état d'esprit dans lequel la hiérarchie municipale considère le cantor. On y sent poindre toutes les occasions de voir surgir l'affrontement. Il n'y est question que d'obéissance, de respect, de soumission quasi aveugle à l'égard de tous les supérieurs. À l'intérieur, des règles sont dictées avec une grande minutie, et cela sous peine de perdre sa charge. On peut y dire « Je manifesterai à l'honorable et très sage conseil tout le respect et l'obéissance qui lui sont dus. » Si l'un des messieurs du conseil souhaite avoir les garçons pour une musique, je les lui procurerai sans difficulté. J'obéirai comme je dois aux honorables inspecteurs et directeurs de l'école en chacune de toutes les instructions que ceux-ci ordonneront au nom de l'honorable et très sage conseil. Je ne sortirai pas de la ville sans l'autorisation de monsieur le bourgmestre en exercice. Et sur le plan de ses fonctions proprement dites, le cantor s'engage à développer au mieux la musique dans les deux principales églises de cette ville, à contrôler la qualité du recrutement des élèves, à instruire les garçons dans la musique vocale et instrumentale pour ne pas charger les églises de dépenses inutiles, à s'acquitter de toutes ses tâches quant à l'instruction des élèves et à faire régner la bonne discipline à l'école. Il est déjà vendredi, et Jean-Sébastien doit composer une cantate pour dimanche qui va être jouée en l'église Saint-Thomas, la plus belle église de Leipzig, longue de 76 mètres, large de 25 mètres, une tour de 68 mètres, et Bach doit faire résonner tout le bâtiment avec ses cantates et son orgue. En 1981, quelques musiciens décident d'exécuter à Bruxelles, capitale de l'Europe, une fois par mois, une cantate de Jean-Sébastien Bach. Ils veulent le faire dans l'esprit qui présidait aux exécutions des cantates du temps du grand compositeur et fondent l'ensemble orchestral et choral La Chapelle des Minimes. Alors c'est un disque un peu collector, c'est en concert à la Chapelle des Minimes à Bruxelles et j'ai choisi un extrait de la cantate 78, un duo de la cantate 78.
Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus.
1729, Bach prend la tête d'un ensemble, le Collegium Musicum, un orchestre créé en 1702 par le jeune Telemann. Donc voici Bach prenant la tête de cet ensemble avec lequel il va se produire chaque semaine de la froide saison dans les salles enfumées du café Zimmermann, établi Katharinenstrasse, rue Sainte-Catherine, l'artère principale de Leipzig, non loin de l'hôtel de ville. En été, le bon Zimmermann dispose tables et bancs dans les jardins, hors les murs, à l'ombre des tilleuls près de la porte de Grima. On joue tous les vendredis soirs de 8h à 10h et pendant la période des deux foires annuelles, en juin et en septembre, le mardi en plus du vendredi. Zimmermann rétribue directement Bach, à charge pour le chef de pourvoir à tout, organisation matérielle, recrutement, cachet, programme. En contrepartie de quoi, le cafetier entend bien retenir une pratique attirée par la qualité et la variété des musiques dont il la régale. Concerto, suite, musicales diverses, de Bach ou d'autres auteurs. Un très important répertoire est exécuté dans ces conditions auxquelles se rattachent les œuvres instrumentales de Jean-Sébastien. À cette nuance près, cependant, que tout oppose acoustiquement la petite salle de café des concerts d'hiver, à laquelle conviennent mieux des ensembles légers de cordes et clavecins, agrémentés de quelques touches de flûte, voire de hautbois, et le plein air de l'été où pourront à loisir se manifester cuivre et bois, trompettes et timbales. Bach animera ainsi la saison musicale de Leipzig 8 années durant, jusqu'en l'été 1737. Pour des motifs demeurés inexpliqués, raisons de santé, lassitude, conflits, soucis personnels, il délaisse alors cette activité qui lui vaut cependant une réelle notoriété et un complément de revenus non négligeable. Alors passons la soirée au Café Zimmermann, au 14 de la rue Sainte-Catherine à Leipzig, pour écouter un extrait de son concerto pour 4 clavecins.
Thank you.
pas trop s'y attarder, s'y intéresser, car trop jeune. Allons plutôt voir la Pietà, ou plus précisément Santa Maria della Pietà, une église baroque le long du bassin de Saint-Marc. C'est dans ce lieu que Vivaldi dirige un séminaire musical appelé l'Hospice de la Pietà, qui accueille de jeunes orphelines déshéritées. Il occupe la charge de professeur de violon et instruit la composition et l'exécution de concertos, tel par exemple que ce concerto pour deux violons et violoncelles extrait de l'extro-harmonico. Inventée au 24 octobre 1537, cette date marquant l'entrée officielle de la canzone villanesque à la napolitaine. À cette date, Johannes de Colonia publie le premier recueil de chants napolitains. On peut voir sur l'édition unique de 1537 une gravure représentant trois paysans qui se soulagent des fatigues du travail en chantant. Avec le choix d'une telle gravure, Colonia avait certainement l'intention de souligner l'origine populaire de ces cantiques villanesques. Alors gardons ce côté populaire pour écouter ces chansons. Plus de cadre restreint, mais les rues de Naples, sa vie et sa campagne environnante.
Stavano cuore mio ed è ventato, stavano cuore mio ed è ventato. Un alloggio di guai ad ogni parte, un alloggio di guai ad ogni parte. Sono allore mi punta con le quarte, sono allore mi punta con le quarte. E la pezza che gira lo scalare, la pezza che gira il vostro amore, per mio destino l'immagine bella, per mio destino l'immagine bella, una crudel che mi punge in martella, una crudel che mi punge in martella, fiamma le rote, tormento le porte, fiamma le rote, tormento le porte. Contrapesi sono la speranza, i contrapesi sono la speranza, cor materna e cora germinanza, cor materna e cora germinanza. E della sfera di mia crudel vita, e della sfera di mia crudel vita, chiaro si legge via tutte l'ore, legge piena tutte l'ore, come assenza cagion del mio dolore, come assenza cagion del mio dolore. Stavano cuore mio ed è ventato, stavano cuore mio ed è ventato, un alloggio di guai un orologio di guai ad ogni parte, sono allori che puntan con le quarte, sono allori che puntan con le quarte.
Maintenant, il va falloir prendre son mal à patience car on a un peu de route à faire. On va remonter l'Italie, traverser la France en diagonale, sauter la Manche pour se retrouver en Angleterre. Londres ne manque pas de lieux de concert, peut-être même en a-t-elle trop, parce que historiquement parlant, les faits sont tristement évidents. Les derniers feux de la fertilité musicale en Angleterre s'éteignirent le jour où l'on enterra Purcell. La musique anglaise, pendant plus de deux siècles, devient un désert offert à une exploitation étrangère effrénée, où s'engouffra Handel, Abel, des fils Bach. Alors je vous ai trouvé des plans pour écouter de la musique autour de Londres. On est au début du XVIIe siècle et c'est Norman Le Bretch, auteur de Londres, histoire musicale, qui nous en parle. Le violoniste John Bannister quitta la chapelle royale de Londres pour ouvrir une salle située au-dessus d'une taverne à Whitefriars. Il fit dresser une cloison afin d'abriter les musiciens, dont la modestie requérait normalement des rideaux, et il présenta tous les jours une musique exécutée par des maîtres excellents à partir de 4 heures de l'après-midi. Le prix d'entrée était fixé à 1 shilling et l'on pouvait commander ce que l'on désirait au bar. Destiné à un public un peu plus sophistiqué, un marchand de charbon, Thomas Brighton, ouvrit une salle de concert au-dessus de ses magasins, avec une fenêtre à peine plus grande que la bombe d'une barrique, par laquelle tous ceux prêts à se tordre le cou pouvaient jouer du plaisir d'entendre de nombreux et remarquables concerts. L'effort de Bannister lui valut d'être enterré à Westminster Abbey, et Brighton eut droit à un mur entier pour son portrait à la National Gallery. À peu près à la même époque, un géomètre nommé Sadler livra son jardin d'Eddingston, abondamment arrosé, au public. L'été, la musique le disputait à des distractions moins distinguées, au cours desquelles le bouffon de la maison dévorait un chat vivant tout en poussant des cris perçants, et un galopin de 11 ans se livrait à des entrechats licencieux. L'enchantement de la musique aux accents enjôleurs nous apporte gaieté et harmonie, tandis que les nymphes et les bergers, leurs galantes et leurs galantes, chantent tous le charme de Sadler Wells, lequel va devenir plus tard un célèbre opéra. Une nouvelle salle de concert fut édifiée à Villiers Street sur le Strand. Avec ses concerts le soir à la cour et dans la résidence ducale, Londres offrait de la musique à son public plus qu'aucune autre ville. Berlin, en comparaison, n'était qu'une mare stagnante dépourvue de compositeurs, où l'on ne pouvait entendre de musique sérieuse que dans les églises. Vienne était trop occupée à bouter les Turcs hors de son sein. Paris dansait aux accents du violon libidineux de Lully, et Rome était confite en dévotion pour l'archange Corelli, par ailleurs lui-même grand admirateur de Purcell. Bien que les styles français et italien continuaient à dominer la musique, un genre spécifiquement anglais commençait à naître. La mort de Purcell interrompit cette croissance en mourant prématurément à l'âge de 35 ans. Il brisait l'essor de toutes les formes d'art, de la musique de la scène à la musique sacrée, des sonates d'avant-garde aux simples chansons. Dans le domaine du chant, cette disparition fut une perte incalculable et pour la musique irréparable. Purcell a maintes fois mis en musique des vers de Shakespeare, tels par exemple que ce « If music be the food of love », le premier vers de la nuit, de la nuit des rois de Shakespeare. Écoutons cet extrait de la nuit des rois.
Sing on, sing on, sing on.
ceux de noble naissance pourront se rendre avec moi à Versailles, où j'ai mes entrées. Quant aux autres, je pourrai les guider dans les rues de la capitale. Versailles, la musique est partout à Versailles, du lever au coucher, des jardins au salon et à la chambre. Mais Louis XIV fait construire un opéra tout à sa gloire, l'Opéra Royal. On va pouvoir y écouter des opéras de son idole Lully. Et puis un peu plus tard, on peut se rendre au Petit Trianon, où Marie-Antoinette s'est fait construire son petit théâtre, où elle peut jouer la comédie, jouer de la harpe, chanter et s'occuper de son jardin à l'anglaise. La première reine Bobo, en quelque sorte. Pour ceux qui restent à Paris, vous pouvez aller manger des frites sous le Pont Neuf, visiter la nouvelle Académie royale de musique et vous perdre dans les rues. Peut-être y rencontrerez-vous Corelli, Charpentier, Couperin. Allez savoir le jeune Mozart, Vivaldi en goguette. Vous allez passer une bonne soirée, j'en suis sûr. Bon, et bien si on se faisait un petit Reader Digest de la musique française de cette époque. Alors je me transforme en digibaroque pour vous faire écouter successivement une chanson de Charpentier, Triste désert, la célèbre ouverture du Te Deum de Charpentier également, un prélude pour viol de gambe de Marais Marais, l'incroyable ouverture d'Acanthe et ses fils de Rameau, une ouverture qui nous fait penser presque à de la musique contemporaine ou tout du moins à du Mozart. Et puis pour finir, une chanson très connue qui est devenue populaire, une chanson de Martini qu'aimait chanter Marie-Antoinette.
Thank you.
Tant que cette eau coule
vous, mais moi je me sens un peu fatigué de ce voyage et quand même content de rentrer à Bourg-les-Valence pour me reposer, pour être prêt pour nous retrouver, notez bien, au Théâtre de la Ville à Valence, notre lieu de musique, pour un concert le mardi 6 décembre à 18h45. Bach et ses contemporains, une soirée au café Zimmermann. Ça va nous rappeler des souvenirs. Mais avant cela, on se retrouve dans une quinzaine